cause d'économie.
Pourquoi la population congolaise ne ressent pas les retombées de la croissance économique jugée stable par le gouvernement et même la communauté internationale? C'est l'une des questions auxquelles répondra notre invité de ce soir. David Lipton est le premier directeur général adjoint du FMI. Une dizaine de véhicules sous douane incendiés, des bureaux de la DGDA saccagés, ceux de l'Office congolais de contrôle détruits ce week-end à Arou en Ituri, résultat de la colère d'une foule qui réagissait, d'après la société civile, aux tracasseries à répétition des services ciblés. Et puis en marge du mois de la femme, plus d'une centaine des femmes du Sud-Kivu ont bénéficié des microcrédits ce week-end. Cette initiative de l'ONG Afidec appuie les activités commerciales des femmes survivant des violences sexuelles. Bonsoir et bienvenue à tous. L'économie de la RDC se porte assez bien à ce jour, même si celle-ci ne profite pas encore à un bon nombre de la population. Le défi pour le gouvernement serait alors d'augmenter son budget afin d'investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures de base. C'est le premier directeur général adjoint du FMI qui l'a dit au terme de sa mission officielle à Kinshasa. David Lipton, qui a eu des rencontres avec les autorités du pays, estime que les relations entre son institution et le gouvernement congolais sont au beau fixe, sans en dire plus. Il est interrogé par Daniel Tambinzoni.
What I've found here in this visit is that your government has made a remarkable.
Je vais vous dire ce que j'ai constaté pendant ma visite ici. Le gouvernement a considérablement bien réussi à stabiliser l'économie du pays. Il y avait autrefois, il y a quelques années, environ une dizaine d'années, une très très forte inflation qui a été véritablement maîtrisée, ramenée à des chiffres très bas. Le taux de change est resté stable ces trois dernières années. La croissance a atteint un taux de 9%. Et même si l'on exclut le secteur minier, la croissance est néanmoins de 4 et quelques pourcents, ce qui veut dire que l'économie est dans une bonne situation.
Justement, puisque vous parlez de cette embellie de l'économie congolaise, le FMI est parmi ces institutions internationales qui publient des statistiques économiques et dont la RDC, mais souvent les Congolais ne sont pas d'accord avec ces publications du FMI parce qu'ils ne ressentent pas les retombées de ces publications. Même lorsque vous parlez de la croissance, la RDC a prévu 9,5% de croissance cette année, mais le FMI parle de 9,1%. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceci?
Not to get caught up in the numbers, the important thing is that the growth is at a very high level.
Bien, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir simplement aux chiffres. Ce qui est important, c'est que la croissance soit à un niveau élevé. Maintenant, votre question montre bien que le pays s'est engagé dans la bonne direction au niveau de ses réformes, parce que, en fait, cette croissance, pour le moment, elle ne bénéficie pas à toute la population. Et il faut absolument élargir les bienfaits de cette croissance à toute la population, et c'est là un défi qui est vraiment considérable. Le gouvernement doit pour cela créer une marge de manœuvre dans son budget de façon à pouvoir construire les infrastructures dont il a besoin, de façon à pouvoir investir dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Ce sont des choses qui ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ça représente un défi véritablement important qui est celui de transformer en fait la richesse minérale de ce pays en une prospérité partagée par tous. C'est un grand défi et nous sommes prêts au FMI à aider le pays à le relever.
Direction l'Ituri pour parler de la destruction ce week-end à Arou Centre des bâtiments administratifs de la DGDA, de la DGM et des institutions judiciaires de la place par un groupe de personnes en colère. Ce même groupe a aussi incendié les bureaux de l'Office congolais de contrôle et détruit une dizaine de véhicules sous douane. Tout est parti d'un acte d'agression physique dont un homme d'affaires de la place soupçonné de fraude d'un véhicule a été l'objet de la part d'un groupe de 6 éléments FRDC. Eric Aoundou, coordonnateur de la société civile locale, lit aussi la colère des manifestants à une accumulation des frustrations qu'ils éprouvent à l'égard de certains services dont les installations ont été visées. Il parle des dégâts causés au téléphone de Jean-Paul Bassila.
Le bureau de DGDA, les effets qui étaient à l'intérieur du bureau pour détruire les documents, les imprimés, les ordinateurs, les groupes électrogènes, puis le système Sidonia. C'est-à-dire des petites voitures. Il y a 4 brûlés, 9 endommagés parmi les deux bâtiments de l'OCC. Les bâtiments administratifs ont pris feu complètement. Il y a une frustration terrible dans la population du territoire d'Arou. Comme le service de l'OCCE a chassé tous les autochtones comme leurs collaborateurs. On a chassé, on a repris quelques personnes de façon clandestine. Il y a des gens qui ont travaillé, ils ont 15 ans à l'OCCE, 17 ans à l'OCCE. Aujourd'hui, vous venez, vous les chassez, très calmement, partez comme ça.
Dans le Bas-Congo, la Confédération des déclarants en douane, la FEC, ainsi que les partenaires évoluant dans le secteur de douane de Matadi et le maire de cette ville se sont réunis en assemblée générale ce week-end. Au menu, échanger sur une lettre que ces associations avaient adressée au nouveau directeur de la DGDA Bas-Congo le jeudi dernier. Une correspondance dans laquelle il déplore les tracasseries dans la procédure de dédouanement depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants à la DGDA Bas-Congo. Il s'agit du dysfonctionnement du guichet au port de Matadi, la double facturation des services et les enlèvements d'office. La DGDA Bas-Congo viole la procédure selon les déclarants et la FEC. Guy Roger Nyampala.
En ce qui concerne le dysfonctionnement du guichet unique au port de Matadi, les déclarants en douane affirment que le circuit orange, une nouvelle procédure de douane, n'est peut-être appliquée car la procédure bivac n'est pas arrivée à expiration telle que les stipulent les prescrits des textes qui régissent ce secteur. Appliquer bivac et orange à la fois est une entorse à la législation, affirme-t-il. Autre plainte, l'évacuation d'office. Selon Jean-Luc Bekama, deuxième vice-président de la FEC Bas-Congo, le délai d'évacuer un conteneur est de 15 jours. Dépasser ces délais, on paye des pénalités. Mais à l'heure actuelle, les évacuations d'office se font en un jour. Aussitôt arrivé, aussitôt évacué sur un parc d'entreposage. Il y a encore beaucoup de plaintes des agents maritimes au bout de Matadi, a-t-il dit. De son côté, Matondo, membre de l'Union des déclarants en douane du Bas-Congo, a affirmé qu'ils sont prêts à lancer une journée sans déclaration au port de Matadi s'il n'y a pas de réponse favorable à leurs revendications. À l'issue de cette assemblée générale, avec plus d'une centaine des déclarants en douane et autres, des échanges ont eu lieu. Ils se sont convenus de se rencontrer le lundi à leur siège pour discuter avec le nouveau directeur provincial de la DGDA Bas-Congo, invité Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Kapi.
Écho d'économie.
À Bukavu, dans le Sud-Kivu, l'organisation AFIDEP, Alliance des femmes pour le développement et la promotion des valeurs humaines, a clôturé ce week-end son programme de distribution des microcrédits rotatifs. Selon sa responsable, 150 femmes survivantes des violences et vulnérables ont bénéficié d'un appui financier pour renforcer leurs activités commerciales. D'après Maombi Chicholero, ceux-ci entrent dans le cadre de leur projet d'automisation de la femme, comme nous l'explique Kadi Azuba.
Pour la coupe, c'est un réseau de COPEC en fait. Nous avons actuellement 7 COPEC agréés, dont 3 dans la province du Sud-Kivu et une dans la ville de Goma. Il y a toujours cette crise de confiance qui est née depuis un certain temps. C'est la suite à la faillite de certaines institutions de microfinance, notamment les coopératives, mais aussi les impayés, les crédits qui étaient en impayés, qui ont eu à dégraisser tant soit fait les actifs de certaines COPEC. Mais bon, nous avons aussi connu ces problèmes-là, et vite, les conseils d'administration, et en appui avec la Banque centrale, a élaboré un plan de restructuration de la coopérative. La COPEC Nyawira a mobilisé au 31 décembre 2014 un volume de 15 millions de dollars en termes d'épargne et on a redistribué en termes de crédit jusqu'à l'ordre de 4 500 000 dollars. À ce jour, nous avons autour de 33 000 membres. Les adhésions ne font que croître tous les jours.
Terminons par le Katanga où le ministre du Plan menace de sanctionner les entreprises minières qui refusent de fournir des données à l'ITIE. Olivier Kamita, qui était en mission dans cette province, a également souligné le fait que le Katanga reçoit mensuellement une redevance minière forfaitaire $1 million, soit 12 millions de dollars par an. Avec la mise en place du découpage territorial, le ministre du Plan explique ce que compte faire le gouvernement pour la gestion de cette redevance minière. Olivier Kamita est au micro de Colin Djuma Moussampo.
Nous allons d'abord examiner quelles sont les données. Nous allons voir quelles sont, bien entendu, les difficultés à aborder cette question. Et nous allons nous concerter. Et je crois que très rapidement, nous arriverons à des solutions. Vous le savez, le découpage, maintenant, le président de la République a promulgué la loi sur le découpage. La loi, c'est une loi de programmation qui fixe les étapes. Eh bien, à chaque jour suffit sa peine. En ce qui concerne la redevance, eh bien, des commissions vont être mises en place. Elles vont discuter des actifs, des passifs de chaque province, de leur capacité. Elles vont essayer de se répartir en termes d'administration. Et puis nous verrons progressivement comment nous pouvons avancer. passer pour doter ces provinces des ressources qui sont indispensables pour que l'autorité de l'État puisse s'y exprimer, mais que la République démocratique du Congo soit attractive aux investissements.
Tout en reconnaissant que la province reçoit ce montant, le ministre provincial des Finances, Christian Mwando, indique que la province produisant mensuellement 11 millions de dollars américains, conformément à la loi, elle devait plutôt recevoir 5 millions de dollars américains et non les 1 million avancés par le ministre du Plan. Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Héritier Sidiakala et suivie par vous. Merci.